Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix de m'écouter en podcast, on va parler de Media Crash, un documentaire sorti mercredi dans les salles de cinéma qui dénonce l'hyperconcentration des médias privés français entre les mains de quelques milliardaires.
RFI.
Il y a ce que vous voyez.
C'est insupportable ces arguments. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat.
Il y a ce que certains souhaitent que vous voyez.
Éric Zemmour, bonsoir.
Bonsoir. Éric Zemmour.
Éric Zemmour vient de rejoindre, bonjour.
Bonjour.
Et ce que vous ne voyez pas.
Jamais la France n'a connu une telle concentration des médias privés. 9 milliardaires détiennent plus de 90% des grands médias, télévision, radio, journaux.
Certains riches patrons d'industrie français disposent d'empires médiatiques. Le premier d'entre eux est Vincent Bolloré, qui avec Vivendi est présent dans l'audiovisuel, Canal+, C8, CNews, Europe 1, la presse, le groupe Prisma Media, le JDD ou Paris Match, la publicité et la communication avec Havas ou l'édition avec Editis. Cette emprise est telle qu'elle fédère contre elle. Jeudi, un collectif baptisé Stop Bolloré a été lancé en France. Il est composé de syndicats, d'associations, de médias, de personnalités, tous dénonce l'existence même de cet empire qui sert par ailleurs, je cite, une idéologie réactionnaire. Des membres de ce collectif ont déposé des plaintes cette semaine et ils promettent par ailleurs des rassemblements dans les semaines à venir. Bonjour Valentine Auberti.
Bonjour.
Journaliste au site d'information français Mediapart, en charge des reportages et des enquêtes vidéo. Avec Luc Herman de la société de production Première Ligne, vous coproduisez ce documentaire, Media Crash. Expliquez-moi l'urgence qui a été la vôtre de sortir ce documentaire maintenant, à 2 mois de l'élection présidentielle française.
L'urgence, c'est l'appétit insatiable de Vincent Bolloré pour les médias. Ça a été un déclencheur de quelque chose qu'on sentait déjà depuis un moment à Mediapart. D'ailleurs, Mediapart s'est créé sur ce constat de la concentration des médias et de la nécessité d'avoir des médias indépendants. Donc, quand Vincent Bolloré a commencé à étendre son empire, la réflexion a mûri et puis cette toute dernière OPA sur Lagardère qui est encore en cours a achevé de nous décider à faire ce documentaire Media Crash et de le faire dans l'urgence donc de cette campagne présidentielle en France et de pouvoir peser sur le débat et mettre cette question du droit à l'information des citoyens, un droit fondamental, au centre des débats qui jusque-là ne l'abordaient pas trop.
Alors c'est un documentaire qui a été produit comme pour la télévision, d'ailleurs je le disais, c'est Première Ligne qui produit notamment Cache Investigation, mais qui est sorti au cinéma et qu'on peut voir depuis mercredi dans une cinquantaine de salles françaises. Pourquoi le cinéma ?
Alors, on dit que Media Crash n'est pas un objet cinématographique, mais c'est un film qui a toute sa place au cinéma parce que ça permet le débat. C'est-à-dire que quand la séance se termine, on va au maximum être présent, l'équipe du film, mais aussi les journalistes de la rédaction ou des spécialistes de médias, dans la salle pour débattre avec les personnes qui seront venues le voir. Ce que ne permet pas la télévision, ce que ne permet pas non plus une simple diffusion sur le site de Mediapart où le documentaire reviendra une fois qu'il sera plus en salle.
L'idée, c'est quoi ? C'est de recueillir des propositions, c'est d'essayer, au contraire, peut-être juste de donner l'envers du décor, de raconter ce que le citoyen lambda ne voit pas lorsqu'il regarde la télé, écoute la radio, lit la presse.
C'est un peu tout ça à la fois, continuer à expliquer, faire de la pédagogie, c'est recréer du lien, c'est discuter, en fait c'est notre mission de journaliste d'aller voir les gens et de leur parler, et puis dans un moment où il y a une énorme défiance envers les journalistes, je trouve que c'est important de faire ce documentaire et de raconter l'arrière-cuisine et de mettre tout sur la table, de dire ce qui va pas, pourquoi ça va pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux, de l'assumer, hein. Moi je suis journaliste, j'en prends ma part, même si je ne travaille pas dans les médias ou pour les histoires qu'on a pu décortiquer, et donc de discuter avec les citoyens pour essayer de renouer ce lien qui s'est distendu.
Le hasard veut qu'une commission d'enquête se poursuit actuellement au Sénat français sur la concentration des médias. On a donc vu plusieurs grands patrons d'industrie français être convoqués et tenus de venir d'ailleurs pour parler devant les sénateurs de leurs activités dans les médias. Des séquences qui ont été intéressantes pour vous et vous en êtes servi d'ailleurs de certaines dans votre doc.
Oui, intéressantes en creux parce que les réponses, on ne les a pas. On ne comprend pas bien quelle est la motivation motivation de ces capitaines d'industrie d'investir dans les médias. Ou en tout cas, moi, j'ai l'impression que la raison pour laquelle ils investissent n'est pas totalement assumée. On a eu des moments quand même assez drôles et paradoxaux. On a Vincent Bolloré qui explique que c'est rentable et qu'il n'investit que pour des raisons économiques. Alors que le documentaire, le documentaire démontre qu'il y a un dessein idéologique derrière tout ça. On a Bernard Arnault qui nous dit qu'il fait du mécénat. Merci Bernard Arnault. Mais Bernard Arnault, il fait du mécénat avec de l'argent public puisque son groupe...
C'est le patron de LVMH.
Exactement. Et le groupe de médias qu'il possède, dans lequel il y a notamment Le Parisien et Les Échos, qui sont deux quotidiens français, eh bien, ce groupe reçoit 20% des aides publiques. C'était le chiffre pour 2019. Donc voilà, c'est du mécénat avec de l'argent public. On a Patrick Drahi. Alors lui, ça a été une des auditions qui m'a le plus fait rire. Il dit qu'il a perdu beaucoup d'argent en investissant dans la presse française, Libération, L'Express, qu'il a perdu 200 millions d'euros. Il dit que c'est pas du tout rentable d'investir, mais il dit que si jamais la fusion M6-TF1 se fait, des fréquences devront être abandonnées par le nouveau mastodonte, eh bien il sera d'accord pour récupérer ce qui tombe de l'arbre, je le cite. Donc on comprend pas bien si c'est pas rentable, pourquoi il réinvestit, et quand on leur demande si c'est pour s'acheter une influence, tous le nient. Or, ce qu'on démontre dans le documentaire, c'est que ces capitaines d'industrie s'achètent une influence en réalité, et d'ailleurs qui dépasse parfois les médias qu'ils possèdent.
Au passage, c'était assez désolant d'ailleurs de voir certains élus sénateurs ne pas du tout maîtriser le sujet, ou parfois ne l'avoir pas du tout préparé.
Oui, cette commission, nous on l'attendait avec impatience, effectivement elle est arrivée alors qu'on était en cours de production, donc on s'est dit, ah bah super, nous qui ne parvenons pas à convoquer ces capitaines d'industrie pour les faire parler face caméra, et on ne les aura pas en interview, sauf à aller les pourchasser, mais l'urgence fait qu'on n'a pas eu le temps de faire ça. On s'est dit, super, ils vont être assis sur une chaise, ils vont être obligés de répondre et obligés de dire la vérité. Et quand on voit, par exemple, Vincent Bolloré qui nous sort une sorte de PowerPoint, de présentation PowerPoint, où il nous explique qu'il est un nain à côté de, ça je le cite, hein, ce sont ses propos, un nain à côté de géants tels que Google, Apple, etc. On ne comprend pas bien pourquoi il compare Vivendi à Google ou Apple, pour presque nous dire que c'est un petit entrepreneur breton qui s'est retrouvé là, qui a 2-3 médias comme ça, mais bon, ben voilà, qu'il l'a fait un peu par hasard. Franchement, c'est difficilement crédible.
On va revenir ensemble sur certaines des séquences de votre documentaire Media Crash, Valentine Auberti. La première partie est consacrée notamment au dérapage, ou en tout cas au virage idéologique pris par CNews et C8, qui banalisent l'extrême droite. Deux chaînes qui sont donc dans l'escarcelle de Vincent Bolloré. Deux chaînes qui ont aussi donné tribune à Éric Zemmour et ses idées.
Oui, et alors, effectivement, on rappelle que Vincent Bolloré est arrivé, a mis au pas iTélé, qui est devenu CNews. Ça, c'est assez connu. On rappelle, on reprécise qu'effectivement, c'est Vincent Bolloré lui-même qui a convaincu Éric Zemmour de venir quotidiennement sur CNews. Éric Zemmour le dit dans son livre, Vincent Bolloré
le confirme
au Sénat. Mais on a, je trouve, une séquence plus intéressante qui concerne Cyril Hanouna. D'emblée, on ne se dit pas que Cyril Hanouna, l'animateur de Touche pas à mon poste sur C8 en France, donc talk show à la fois de société, de politique et puis de divertissement, on ne se dit pas que Cyril Hanouna peut propulser la candidature d'Éric Zemmour à la présidence de la République en France. Or, les chiffres le prouve. On s'appuie dans cette séquence sur les travaux d'une chercheuse qui s'appelle Claire Secaille, qui est chercheuse au CNRS et qui a regardé TPMP depuis la rentrée de septembre. Et sur la période de pré-campagne qui va de septembre à décembre, eh bien, elle démontre en fait que quand TPMP, Touche pas à mon poste, parle de politique, eh bien, à 50%, ce sont des sujets qui sont sur l'extrême droite. Et quand TPMP invite des personnalités politiques, eh bien, 44% de ces personnalités politiques, ce sont des soutiens d'Éric Zemmour ou Éric Zemmour lui-même. Et puis, TPMP va même jusqu'à diffuser des courtes vidéos exclusives d'Éric Zemmour, fabriquées par Éric Zemmour pour le public de TPMP. C'était le cas pendant la pré-campagne, c'était encore le cas en janvier, lorsqu'Éric Zemmour faisait campagne pour obtenir des parrainages. Donc, est-ce que c'est le rôle de TPMP de diffuser des vidéos de campagne comme ça? En tout cas... ça permet d'interroger.
Valentine Auberti, vous avez auparavant travaillé pour RFI ou pour l'émission Quotidien, dans lesquelles il est beaucoup question d'international. Et dans votre documentaire, vous parlez des activités logistiques du groupe Bolloré en Afrique, notamment dans les ports et dans le rail. Le journal Le Monde, en 2014, publiait un article mettant en cause les conditions de l'attribution au groupe Bolloré d'un terminal de conteneurs à Abidjan. On écoute Maureen Grisot, elle était correspondante du Monde et de RFI à cette époque.
2-3 mois après la publication du papier, je vais à Paris voir mes chefs. Et puis là, on prend un café. Et puis il y en avait un là qui était rédacteur en chef et qui allait devenir le patron de la formule Le Monde Afrique. Et là, il me regarde, il me tape sur l'épaule et il me dit bah, « Non, ça va, tu te sens pas trop mal d'avoir coûté 16 millions d'euros au journal ?» Donc, silence, malaise, je commence le soir, je commence à paniquer, je sors du restaurant, vite, je remonte à la rédaction au Monde, voir mes collègues du service international. Et je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? On m'a dit que j'avais coûté 16 millions d'euros au Monde, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on m'explique qu'en effet, après la publication de mon article, donc en septembre, que Havas a demandé à tous ses clients de ne plus annoncer dans Le Monde.
La direction du journal confirme la pression d'Havas.
Havas est une agence qui est dirigée par Yannick Bolloré, le fils de Vincent Bolloré. Et ce que vous dites dans votre documentaire, c'est que Le Monde a été privé de publicité par Havas durant 2 à 3 ans, que ça a coûté la bagatelle de 10 à 12 millions d'euros au titre. Et ça, ça vous est confirmé par Louis Dreyfus, face caméra. Louis Dreyfus, qui est le président du directoire du groupe Le Monde.
Donc c'est un peu le big boss du groupe. Et en fait, oui, alors je dois rendre hommage à mes confrères qui ont déjà raconté l'histoire qui est arrivée à Maureen Grisot. Ça a été raconté dans des livres consacrés à Vincent Bolloré notamment. C'est la première fois qu'effectivement le président du directoire du Monde le confirme, et là il le confirme face caméra, il utilise même le mot de boycott. Donc voilà, c'est pas une suppression de pub une fois dans un exemplaire du Monde à un jour précis. Non, ça a été décidé, organisé, et il a fallu, comme il l'explique, rappeler les annonceurs un à un. Et puis il m'a même raconté que le Havas n'avait pas payé les factures des précédentes publicités passé dans Le Monde pendant plusieurs mois. Ils se sont aussi rendus compte qu'Havas ne payait pas les factures, donc il a fallu aussi aller réclamer leur dû auprès d'Havas. Donc c'était pas anodin.
Donc on touche au portefeuille là directement, et on se rend compte que Vincent Bolloré n'a même pas besoin d'avoir le bras long. Là, c'est le bras court, puisque ce sont ses proches qui sont aux affaires et aux manettes.
C'est ça, et puis alors c'est vrai que c'est problématique pour les médias qui vivent de la publicité. Ça, on pourrait questionner ce modèle, hein, mais en tout cas, pour Le Monde, c'était une perte importante, à un moment en plus où le journal n'était pas dans une aussi bonne santé financière qu'aujourd'hui. Et puis ça pose quand même une question de conflit d'intérêts. Vincent Bolloré, il possède des médias, mais il possède aussi cette agence Havas qui décide ou pas de placer de la publicité. Enfin, il y a une situation là qui est peut-être pas tout à fait saine.
Autre milliardaire mis en cause dans votre documentaire, c'est Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH. LVMH qui s'est attaché les services de Bernard Scarsini, ex-directeur du renseignement intérieur français, qui lui s'était attaché, en tout cas avait fait appel à des fonctionnaires de police encore en poste pour déstabiliser des journalistes, et notamment François Ruffin, qui maintenant est député de la France Insoumise, mais qui avant cela était le directeur du journal Fakir. Il voulait s'introduire dans un événement de LVMH, et ça a donné lieu à une séquence un peu particulière.
Moi, mon point de vue, c'est qu'au fond, que Bernard Arnault cherche à faire ça, à nous éloigner, nous éliminer, nous écarter, je le comprends. Ce que je ne comprends pas du tout, c'est la complicité de l'État français. Que le ministère de l'Intérieur, que tout ça se mette au service de Bernard Arnault, au service d'intérêts privés, et moi c'est ce qui m'a le plus choqué. Je mets la responsabilité plus du côté de l'État français que du côté de Bernard Arnault.
Après la révélation par Mediapart de l'espionnage de l'équipe de François Ruffin, le parquet de Paris a élargi l'enquête judiciaire qui vise actuellement Bernard Scarsini.
Fakir a déposé plainte.
Coup de théâtre, fin 2021. La justice conclut un accord avec LVMH, une convention judiciaire d'intérêt public.
Contre une amende de 10 millions d'euros, la multinationale évite les poursuites.
Je venais ici avec une question, c'est la justice peut-elle être achetée pour pas cher? Moi, ma réponse, elle est que oui.
Valentine Auberti, cette séquence autour de François Ruffin, autour de Bernard Scarsini, qui donc s'attache les services et utilise l'appareil de l'État pour lequel il travaillait auparavant, aux fins de ce milliardaire pour le protéger.
Alors, cette séquence, elle est à la fois grotesque et très grave. Elle est grotesque parce qu'il faut bien que vos auditeurs comprennent de quoi on parle. On parle d'un petit journal, Fakir, qui se situe dans une ville dans le nord de la France,
Amiens.
Amiens, qui est une petite ville. C'est un petit journal associatif, poil à gratter. Et en face, c'est LVMH, un des groupes de luxe les plus puissants au monde, avec Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, voilà, extrêmement puissant. Pour dissuader Fakir d'être le poil à gratter qu'il est, ils vont donc déployer des moyens considérables en s'associant avec Bernard Scarsini, qui est donc l'ancien grand flic qui a plein de réseaux au sein de l'appareil d'État, pour déstabiliser Fakir. Donc c'est à la fois grotesque parce que c'est complètement disproportionné, et ce qu'on voit dans le documentaire, c'est que les gens de Fakir ont acheté une action LVMH et veulent aller à l'Assemblée Générale des Actionnaires pour voir le patron
et mettre le bazar un petit peu.
Et puis lui poser des questions, parce que tout ça c'est au moment où où François Ruffin fait un documentaire qui s'appelle Merci Patron, où il veut un petit peu venir en aide à des ouvriers licenciés du groupe LVMH, l'une des filiales. Donc ils veulent aller à cette assemblée générale, ils n'ont pas prévu de faire autre chose que de faire un peu le bazar. Et en fait, on se rend compte, on voit dans la séquence qu'ils sont coursés, qu'ils sont pistés comme s'ils étaient des grands bandits, quoi. Donc il y a quelque chose de grotesque dans la mise en scène. Et là où c'est très grave, c'est que ça a donné lieu à une enquête et que pour cette infiltration, LVMH a accepté de payer une amende de 10 millions d'euros. Ça peut paraître une somme énorme. Pour LVMH, c'est une toute petite somme et c'est le fruit d'un accord conclu avec la justice. C'est une procédure qui est rendue possible pour les entreprises, mais ça veut dire que LVMH ne sera jamais reconnu coupable, parce que c'est pas un plaidé coupable, pour cette infiltration qui est très grave. Ils sont allés jusqu'à chercher des informations personnelles sur François Ruffin.
J'aimerais qu'on parle d'une autre séquence, Valentine Auberti, qui cette fois-ci vous met en scène, ou en tout cas on vous voit aller à la rencontre de Florence Parly, ministre des Armées. Vous étiez alors reporter pour Quotidien, l'émission de télévision de la chaîne TMC. Vous souhaitiez interroger Florence Parly sur l'utilisation d'armes françaises par l'Arabie Saoudite contre des civils au Yémen. On écoute.
Je voulais juste vous dire que sur le Yémen, puisque c'est votre question, j'ai eu l'occasion de m'exprimer il y a encore peu de temps auprès de l'un de vos confrères. J'ai eu l'occasion de dire qu'il me semblait indispensable que cette horrible guerre s'arrête.
Dans ce document, il y a des armes françaises pour lesquelles il n'y a aucune information, Madame la Ministre, sur leur destination. Madame la Ministre, sur le point de situation, il y a des armes françaises dont vous n'avez aucune information sur leur utilisation au Yémen.
Son conseiller diplomatique semble un peu plus intéressé par notre document.
C'est un papier confidentiel défense que vous avez de main, vous êtes habilité à l'avoir.
C'est ce qu'on m'a transmis. Et ça me permet de travailler.
Puis hors champ, une officière du ministère essaye de récupérer notre document.
Voir ce que c'est,
Non.
Ok.
Désolée.
Ça sera des documents vraiment qui ne doivent pas sortir normalement, enfin pour diverses raisons, pas pour de la censure.
Moi je suis journaliste, je pose juste des questions, je suis désolée.
C'est juste pour info nous en interne.
Et c'est là que l'histoire prend une autre tournure.
Valentine Auberti, ces images que l'on voit dans votre documentaire Mediacrash n'ont jamais été diffusées. Vous essayiez donc de courir à l'époque après la ministre des Armées, Florence Parly, avec des documents confidentiels défense qui mettaient en cause justement la France et l'utilisation de ces armes au Yémen par l'armée d'Arabie Saoudite contre des civils. Pourquoi avoir attendu avant de sortir cette séquence? C'est parce que déjà, vous risquiez la prison et une forte amende.
Alors, la séquence n'a jamais été diffusée parce que mon producteur a décidé que cette séquence ne devait pas être diffusée.
Parce que vous alliez trop loin ?
En tout cas, on a reçu, après avoir fait ce tournage, un mail du ministère de la Défense nous expliquant qu'on avait compromis le secret de la Défense nationale, qu'on risquait 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende et qu'il fallait qu'on aille rendre le document. Hein, qu'on aille devant le ministère des Armées et puis qu'on leur donne le document.
Numérique, donc.
Voilà. ce que nous n'avons pas fait. Mais ce mail, qui est arrivé quelques heures à peine après la séquence que vous venez de diffuser, a suscité une forme de panique au sein de la rédaction et a été le déclencheur de la décision d'arrêter cette enquête. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu, puisque je ne vois pas d'autre raison éditoriale au fait que nous n'ayons pas diffusé cette enquête. Nous disposions d'un document inédit, exclusif, avec des informations qui venaient contrecarrer et contredire la version officielle selon laquelle les armes françaises ne tuaient pas de civils au Yémen. C'est un document qui a ensuite été publié par le collectif Disclose. Donc, son
Disclose qu'on a déjà reçu dans la télé des médias, donc qui est un groupe
d'investigation
à but non lucratif et donc qui a poursuivi cette enquête.
Donc ce document était, j'ai envie de dire, une bombe en vérité. Je suis allée faire cette confrontation, j'avais prévu d'interviewer des spécialistes, enfin j'avais déjà eu des spécialistes au téléphone qui m'avaient expliqué pourquoi c'était intéressant, qu'est-ce qui était particulièrement intéressant dans le document, enfin voilà, il y avait largement de quoi faire un bon sujet. Après, avoir un document confidentiel défense, ça peut faire peur. Moi, je peux l'entendre. Je ne peux pas entendre, en revanche, que ça n'avait aucun intérêt et que l'enquête n'était pas bonne et qu'il fallait s'arrêter là. Je n'ai pas d'explication éditoriale à l'arrêt de cette enquête. Bon. Et je le regrette.
Et en tout cas, ça a donné lieu à des convocations auprès de la DGSI, donc
Absolument.
Les renseignements.
Voilà, là, ce qu'on essaie de démontrer, au-delà de l'autocensure décidée par Quotidien, le but de cette séquence, c'est de montrer qu'il y a des pressions politiques, donc là, en l'occurrence, le ministère des Armées, et que dans ces pressions politiques, la justice est instrumentalisée, puisque une enquête préliminaire a été ouverte, c'est une procédure non contradictoire, on n'a pas accès au dossier, on ne peut pas se défendre réellement. Convocation à la DGSI, interrogatoire, on fait valoir le secret des sources et on ne répond pas très bien. Et puis, à un moment, au bout d'un an d'enquête, sans savoir ce qu'a donné cette enquête, ce qu'il y avait dans cette enquête, je reçois un courrier du procureur de la République de Paris me disant « L'infraction est caractérisée, sous-entendu, vous avez bien commis ce délit de compromission du secret de la Défense nationale, mais, sous-entendu, je suis Clément, elle s'arrête là, je classe sans suite, mais je vous mets un rappel à la loi. » Et un rappel à la loi, c'est inscrit au traitement des antécédents judiciaires, qui est un fichier police-justice, et qui signifie que pendant 6 ans, je ne peux plus diffuser, connaître d'informations confidentielles défense. Donc c'est une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête pendant 6 ans, qui a pour but de dissuader finalement les journalistes d'enquêter. Cette séquence est un petit pied de nez. Je ne pense pas que je risque quoi que ce soit. Encore que si ça arrivait, peut-être qu'en ayant une enquête qui va jusqu'au bout, avec peut-être un procès, on pourrait porter la question du secret de la Défense nationale versus le droit à l'information. Mais le risque est théorique. Mais on voulait montrer cette séquence pour dire que si on est un journaliste pigiste précaire indépendant, est-ce qu'on va se risquer à de nouveau enquêter sur ce genre de sujet avec des documents confidentiels comme ça, sans prendre de gros risques qu'on serait les seuls à devoir assumer.
À la mare, j'en continuerai, chacun pour soi, de tourner la page des souvenirs lointains, à charge de revanche, décharger le venin, le temps que ça démange, autant que besoin est soudain. De long en large, on se racontera orphelin, survivant d'un naufrage, seul témoin de courage, on se remettra dans le bain, traverser à la nage ou rebrousser chemin.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI, je suis avec Valentine Auberti, co-réalisatrice du documentaire Média Crash, qui pointe la mainmise de quelques riches industriels français sur les médias privés. Valentine, certains des journalistes que vous avez sollicités pour ce documentaire n'ont pas souhaité s'exprimer, de peur de se faire rappeler à l'ordre peut-être par leur hiérarchie, y compris ceux qui sont membres de sociétés de journalistes, les fameuses SDJ, et vous rappelez ces derniers jours, au cours d'interviews, qu'il est peut-être... dommage, qu'il faudrait peut-être rectifier quelque chose, que ces journalistes de SDJ devraient bénéficier d'un statut plus protecteur.
Oui, effectivement, on s'est heurté à énormément de refus. Pas un journaliste en poste à BFM ou à CNews, qui sont deux chaînes d'information dont on parle, n'ont accepté de répondre. Donc c'est vrai que c'est un paradoxe, on est journaliste, on est là pour faire parler les gens, et quand il s'agit de parler nous-mêmes, on se retranche derrière le mur du silence. Ceci dit, je les comprends, puisque en effet, quand on est journaliste dans une chaîne, c'est compliqué de parler de son employeur, on peut risquer peut-être convocation, licenciement, représailles. Les sociétés de journalistes, en effet, ce sont les journalistes qui représentent les journalistes dans leur rédac. Et nous, on relaye, enfin là, quand on en parle, on relaye une proposition qui est faite par des collectifs de journalistes qui serait de leur offrir un statut juridique, carrément, qui leur permette aussi d'agir en justice quand la déontologie de leurs médias n'est pas respectée. Donc ça pourrait être une piste pour faire évoluer les choses, pour rétablir un rapport de force un peu plus équilibré entre les journalistes d'une rédaction et leurs actionnaires.
La déontologie, c'est une question qui agite parfois les rédactions, qui agite aussi actuellement RFI. Là, ici, dans votre documentaire, il est question vraiment de démocratie, de voir l'impact que certains milliardaires plénipotentiaires et des empires qu'ils constituent peut avoir sur la démocratie. Votre documentaire est même sous-titré « Qui a tué le débat public ?» C'est réellement ça, à votre avis, on va jusque-là ?
Mais en tout cas, il y a des coups de canif dans le débat public. C'est ce qu'on montre notamment avec la première partie qui concerne l'Empire Bolloré. Quand sur CNews, on a des invités qui relayent, enfin qui développent des théories dont j'ai même pas envie de citer le nom en fait, parce qu'on lui fait beaucoup trop de pub en ce moment à cette théorie qui a inspiré des criminels en fait suprémacistes. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas du journalisme, c'est pas du débat d'opinion. Là, c'est relayer des théories criminelles. Donc oui, il y a une partie du débat public qui est étouffée par des théories fumeuses. Il y a des sujets qu'on voit trop tout le temps en boucle et qui parfois éclipsent des sujets qui sont davantage d'intérêt général.
Il y a une question que se posent aussi certains internautes actuellement. C'est un des chiffres qui ouvre votre documentaire. 9 milliardaires détiennent plus de 90% des médias privés en France. Certains tentent de fact-checker ce chiffre sans y parvenir.
Alors, ce chiffre vient d'un décompte fait par Bastamag, donc qui est un site d'information indépendant, d'un article qui date de 2017, qu'ils avaient titré 10 milliardaires possèdent 90% des médias.
Voilà, et qui disait que 10 milliardaires possédaient 90% des quotidiens français.
Des quotidiens, mais en fait, ils avaient réalisé une sorte de tableau avec les fameux 10 milliardaires et tous les médias qu'ils possédaient. Donc les médias, ils avaient aussi listé les radios et les télés. Nous, on en a retiré un seul. On a retiré le groupe Amaury puisque ça parlait de sport. Non pas que le sport ne nous intéresse pas, mais notre documentaire s'attache aux médias d'information politique et généraliste. Et donc ça, c'est la première source. Et l'autre source, ce sont les travaux de Julia Cagé. Je vous redétaille pas le calcul qu'elle m'a expliqué, mais elle ouvre un de ses livres qui s'appelle « L'information est un bien public » qu'elle a coécrit avec Benoît Huet de mémoire. L'introduction de ce livre, effectivement, rappelle ce chiffre de 9 industriels possèdent 90% des médias.
Votre documentaire aussi se termine par des notes d'espoir aussi. Il est dit qu'un peu partout en France, de nouveaux médias indépendants voient le jour. Alors ici, dans l'atelier des médias, on parle souvent de ces médias. On avait parlé de Blast, de Off Investigation, de Disclose. La semaine dernière, on parlait de Vert, justement. Et vous dites que dans les rédactions, des journalistes se battent pour que vous ayez, vous, citoyens, accès à l'information. Il faut aussi se dire, justement, qu'il y a des journalistes qui font bien leur boulot et qu'il ne faut pas mettre tous les médias et tous les journalistes dans le même panier.
Mais bien sûr, un média, une radio, une télé, un journal, ce n'est pas un bloc monolithique, c'est une diversité de profils, c'est des journalistes obsessionnels qui vont aller chercher et qui vont se battre pour sortir une info, ce sont des rédacteurs en chef courageux, et puis des rédacteurs en chef moins passionnés, des journalistes qui font juste leur boulot. C'est une diversité de profils, et donc c'est une diversité de responsabilités individuelles en fait. Donc bien sûr que dans les rédactions, partout en France, à BFM, partout, il y a des gens qui font très bien leur travail, et j'irais même jusqu'à dire que dans des cadres plus contraints, l'enjeu et le défi est bien plus grand que dans un cadre de totale liberté comme c'est le cas dans la plupart, enfin dans les médias indépendants. Dans un cadre contraint comme une chaîne possédée par un industriel, eh bien c'est d'autant plus méritant quand on réussit à sortir des informations ou à se battre contre des vents contraires.
Mediacrash est actuellement dans plusieurs dizaines de salles de cinéma en France. Pourra-t-on le voir sur Mediapart une fois qu'il ne sera plus en salle?
Oui, bien sûr. Il va revenir sur Mediapart pour
ça
les abonnés.
Justement ça à ce vit, documentaire, ce sera
voilà,
quoi
on espère que le documentaire a vocation à vivre après le cinéma, car le cinéma ne sera pas éternellement en salle, Mediacrash, le plus longtemps possible, j'espère. Mediacrash a vocation à être évidemment sur Mediapart, pourquoi pas en VOD, et puis aussi à circuler, on l'espère, dans des festivals de documentaires, pour continuer à aller à la rencontre du public, et puis on l'espère aussi peut-être dans des universités, dans les écoles, collèges, lycées, pour dans une optique d'éducation aux médias, ça pourrait être aussi une belle vie pour ce documentaire.
Vous qui êtes en charge des enquêtes vidéo à Mediapart, est-ce que l'idée c'est aussi de développer le documentaire sur votre site ?
Oui, on a vocation à développer toutes sortes de formats. On est un site internet, donc par définition, on peut diffuser de l'écrit, du son, de l'image qui bouge ou qui bouge pas. Donc on a commencé avec... ça fait déjà bien longtemps que Mediapart fait des lives, donc des émissions en direct, ça fait 10 ans. On a continué avec une émission quotidienne dans laquelle il y a des reportages plus ou moins longs. Il y a ce documentaire au cinéma. On est en train de finaliser des reportages, je dirais, enquête un peu moyen format, une trentaine de minutes. Donc des séries de reportages également. Donc oui, on a vocation à développer tout ça.
Et qu'est-ce que vous allez regarder justement pour mesurer l'impact de Mediacrash dans 2 mois par exemple?
Ben, on va voir si pendant cette campagne la question des médias, mais plus que des médias en réalité, de l'information du public, du droit à l'information est évoquée. Moi j'ai quand même en mémoire que voilà, je regarde le quinquennat qui vient de s'écouler. J'ai en mémoire une proposition du candidat Emmanuel Macron, hein, la proposition dans son chapitre sur la culture qui était renforcer l'indépendance des rédactions. Et j'ai en tête que le candidat Macron devenu le président Macron, que le président Macron a surtout dit on a une presse qui ne cherche plus la vérité au moment où la presse justement révélait les agissements d'un de ses proches collaborateurs, Alexandre Benalla, dans les événements du 1er mai. Donc j'ai pas l'impression que ce quinquennat, par exemple, ait fait du droit à l'information une priorité.
On sera aussi attentif à ce qu'il adviendra de la réforme de l'audiovisuel public. Merci Valentine Auberti. Merci Valentine Auberti. Je rappelle que vous êtes journaliste au site d'information français Mediapart, en charge des reportages et des enquêtes vidéo. Vous présentez notamment À l'air libre, la web émission de Mediapart.
Merci.
À bientôt dans l'atelier des médias.
À bientôt, merci.
On termine cette émission avec Mondoblog, la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Pour agrandir la famille Mondoblog, nous avons lancé un concours auquel vous qui m'écoutez pouvez participer. Où que vous soyez, vous qui m'écoutez en podcast ou qui m'écoutez sur RFI en FM depuis le Burundi, le Cambodge, Haïti, la Roumanie ou encore l'Afghanistan, vous ou vos amis, tous et toutes autant que vous êtes, vous avez jusqu'au 15 mars pour candidater, nous soumettre un article sur le thème de cette année, toutes et tous actrices et acteurs du changement parce que le monde de demain est encore à inventer. Toutes les informations sont sur mondoblog.org. Allez, il est temps d'écouter l'un de ces mondoblogueurs dans Mondoblog Audio, ce moment qui chaque semaine nous fait entendre la voix de nos blogueurs. Cette semaine, il est question des langues, celles que l'on parle et que l'on écrit. Plus précisément, des nombreuses langues qui sont parlées en Afrique, celles qu'on apprend tout petit, les langues dites maternelles. On écoute le journaliste et mondoblogueur Georges Atineau depuis Bamako, au Mali.
Au Mali, il existe une douzaine de langues, en plus desquelles il faut ajouter une langue officielle, le français. Les langues maternelles sont réservées à une utilisation orale et familiale. Elles sont généralement peu écrites. En revanche, on écrit en français, qui n'est parlé que par une petite frange de la population. Au Mali, on parle donc généralement en langue nationale, Bambara pour la moitié de la population, mais aussi Fulfulde, Dogon, Sonray, Soninké, Tamashek. Les langues maternelles ont chacune leur spécificité. Elles sont des vecteurs de transmission de la culture malienne. C'est fondamental dans un pays où le repli sur soi et les conflits intercommunautaires sont un grand défi. Du nord au sud du pays, les Maliens ne se connaissent pas très bien, selon qu'on vive dans telle région ou qu'on appartienne à telle ethnie. Chacun parle sa langue. On ne connaît pas si bien la culture de l'autre. La valorisation du multilinguisme au Mali doit donc être une priorité. Parler la langue de l'autre permet de mieux le connaître et de mieux le comprendre. La langue partagée est un pont qui nous rapproche. Dans un pays où l'on parle 12 langues, c'est essentiel de s'ouvrir aux autres. Les langues nationales sont nos langues maternelles. Comme leur nom l'indique, ce sont des langues qu'un enfant apprend en premier quand il est petit. Au Mali, par exemple, les Mandingues apprennent le Mandinkan. Les Peuls apprennent et parlent le Fulfulde et ainsi de suite. Ce qui enferme les langues maternelles dans un milieu purement communautaire. Il existe quelques exceptions où des personnes de communautés différentes se retrouvent dans un bassin linguistique avec une langue dominante. Cela fait du Mandinkan, le Bambara, la langue la plus parlée et répandue au Mali. Je pense qu'aucune langue ne devrait être exclusivement réservée à une communauté. Au-delà des locuteurs natifs, tout le monde devrait pouvoir s'approprier ces langues. Que le Bambara parle le Fulfulde, que le Peul apprenne le Bambara, que le Sonray parle et comprenne le Soninké. Parce que parler la langue de l'autre, c'est avoir envie de rentrer en contact avec lui, c'est faire preuve d'ouverture envers sa culture, son monde et sa communauté. Toute langue est faite pour communiquer, mais elle représente aussi une manière de voir le monde. Comme on le dit en Sonray, Fondagoy, en Tamashek, Al-Harajen et en Bambara, Iniché. Merci.
Mondoblog.org.
Le journaliste et blogueur malien Georges Atineau, passionné de culture, de musique et de langues africaines. Des dizaines de Mondoblog audio comme celui-là sont envoyés par nos blogueurs et blogueuses. Vous pouvez les écouter sur mondoblog.org. Et je le redis, on recrute de nouveaux blogueurs francophones de RFI. Tentez votre chance à notre concours sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon Decreuse. Si vous aimez l'atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, épisode, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Sur toutes les plateformes où vous le pouvez, mettez des étoiles au podcast de l'Atelier des médias et postez des commentaires pour que ce programme que vous suivez ait davantage de visibilité et donc puisse être encore plus écouté. Pour me contacter, un mail atelier@rfi.fr ou un message via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel Atelier des médias.